Comment les Français sont-ils devenus électeurs ? En 1848, l'adoption du suffrage universel masculin bouleversa le fonctionnement du champ politique, puisque 9 millions de Français furent invités à participer aux premières élections législatives de la Seconde République. Le principe « un homme, une voix » avait déjà été introduit dans la Constitution de 1793, mais il tomba en désuétude jusqu'au début de la monarchie de Juillet. La loi du 21 mars 1831, instaurant des élections municipales, fut une première étape dans le renouveau de la pratique électorale. Mais comme il s'agissait encore d'un régime censitaire, à peine 3 millions d'électeurs purent y participer et la ville de Paris fut privée de cette consultation. Plusieurs recherches, que je cite dans la bibliographie de notre site, ont montré comment la révolution de 1848 permit aux citoyens qui en avaient été exclus jusque-là de s'emparer du droit nouveau qui leur était concédé. À Paris, en l'absence d'élections municipales antérieures, la plupart des gens n'avaient aucune expérience de ce type de pratique. Il fallut créer de toutes pièces une organisation permettant à l'énorme masse des nouveaux électeurs de participer à cette consultation. Pour cela, il était nécessaire d'enregistrer au préalable les individus disposant du droit de vote en tant que citoyen. Ces procédures d'identification des électeurs ne furent pas complètement réussies puisque plusieurs milliers de Parisiens furent oubliés lors de ces élections législatives. La difficulté fut aggravée en raison de la particularité du système électoral de l'époque. Jusqu'en 1889, les candidats n'étaient pas tenus de se déclarer dans une seule circonscription. Les votants pouvaient donc choisir des députés sans aucune restriction de l'offre électorale. Voilà pourquoi les nominations multiples furent nombreuses, comme en témoigne l'exemple de Lamartine, membre du gouvernement provisoire de la Seconde République, qui fut choisi dans 10 départements en avril 1848. Mais comme ces élus multiples ne pouvaient opter que pour un seul siège, il fallait, à chaque fois qu'ils se désistaient, organiser des élections complémentaires. À Paris, l'encadrement de ce suffrage de masse exigea aussi la mise en place de nombreux bureaux de vote par quartier dans divers bâtiments publics. Jusqu'à la veille de la Grande Guerre, il n'y avait pas d'isoloir, ce qui explique que le rituel électoral ait conservé une dimension collective. Les votants devaient attendre leur tour pour donner un bulletin au président avant d'assister au dépouillement, puis de s'assembler pour écouter l'annonce du résultat. Considéré comme un succès, puisque 80% de cet énorme électorat se présenta aux urnes au mois d'avril 1848 sans incident majeur. La mise en œuvre du suffrage universel masculin fut néanmoins contrôlée de plus en plus étroitement lors des consultations électorales suivantes. La loi du 31 mai 1850 fut le point culminant de la reprise en main du processus électoral. Un séjour plus long dans la commune fut exigé pour être électeur et la liste des peines criminelles privant du droit de vote fut allongée. Au total, le corps électoral fut réduit d'un tiers, ce qui pénalisa surtout les franges inférieures des classes populaires.